Bien le bonjour. Que signifie écrire pour la radio ? Une question, un défi que nous lançons régulièrement dans l'émission dans Entre les lignes, votre rendez-vous littéraire sur Espace 2, où un écrivain de Suisse romande, qu'il soit romancier ou auteur de théâtre, se prête au jeu. Cette fois-ci, nous recevrons la jeune auteure lausannoise Antoinette Richner, âgée de 30 ans, qui a écrit pour la scène et qui vient de sortir de l'Institut littéraire suisse à Bienne. C'était en automne de l'année passée. L'aventure de l'écriture se poursuit plus que jamais pour elle. Preuve en est les trois textes qu'elle a écrits spécialement pour la radio et que nous allons découvrir ensemble durant une heure. Antoinette Richner, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro, bienvenue d'Entre les lignes.
Merci.
Les auditeurs qui ont une bonne mémoire et qui nous sont fidèles, il y en a. Ils se souviennent peut-être de votre passage dans l'émission il y a 4 mois, un peu plus de 4 mois, où vous étiez venu nous parler de l'Institut littéraire suisse de Bienne, la première haute école de Suisse consacrée à l'enseignement de l'écriture, une institution dans laquelle vous avez fait vos armes au terme de 3 années d'études. Vous avez obtenu un bachelor en écriture littéraire, une expérience qui porte ses fruits puisque vous êtes désormais très active dans votre production littéraire, dans votre activité littéraire. Un recueil de nouvelles est prévu pour cet automne. Et dans l'immédiat, c'est-à-dire ces jours-ci, vous nous avez livré 3 textes courts spécialement écrits pour la radio. Ils ont été enregistrés par Marie Druck, la comédienne, mise en onde par Jean-Michel Meyer. On va pouvoir les découvrir en votre compagnie dans l'émission. Mais peut-être d'emblée, pour mieux faire connaissance avec vous, j'aimerais que vous nous parliez de peut-être de l'univers, votre univers de l'enfance, de votre adolescence, parce qu'il me semble que ce monde-là vous a inspiré, vous inspire encore aujourd'hui. C'est en tout cas le cas d'un des textes. Vous allez puiser dans ce réservoir de souvenirs proches tout un matériau pour l'écriture, Antoinette Richner.
Alors, peut-être pour le texte qu'on va entendre tout à l'heure, il s'agit peut-être plutôt du regard du parent. Enfin, c'est nos enfants sur scène, on va le voir, c'est un peu peut-être la période des spectacles de fin d'année. Et là, je crois que ce qui a suscité le texte, c'était peut-être plutôt l'impression que finalement, peu importe la forme scénique et le travail scénique dans ce genre de cadre, mais ce qui est en avant, c'est plutôt le plaisir des parents à retrouver leur progéniture sur scène.
Voilà, en scène, en mouvement, on va pouvoir s'en rendre compte. Mais alors, pour revenir un peu en arrière, s'agissant de votre propre parcours, votre enfance, votre adolescence a baigné dans quel milieu ? Qu'est-ce que vous en gardez, Antoinette Richner ?
J'ai grandi dans un milieu où les lettres avaient leur importance. Ma mère était enseignante, et mon père était bibliothécaire.
Donc voilà, ça laisse des traces.
Évidemment, ouais, ça laisse beaucoup de traces. Après, dans la suite de mon parcours, j'ai complètement bifurqué. Je suis allée vraiment voir plus du côté de la matière et du bricolage. En fait, j'ai fait d'abord une école d'art appliquée. Et après ça, j'ai fait un séjour, j'ai travaillé plusieurs saisons à l'Opéra de Lausanne. Et là, en fait, j'avais beaucoup de chance parce que dans les machinistes, il y avait un certain nombre de personnes qui étaient là, qui m'ont aidé à découvrir le bois, le métal. Il y avait un très grand atelier.
Comme
j'avais de l'intérêt, ils m'ont montré un peu. Donc c'est clair que je n'ai pas une pratique professionnelle, je ne suis pas menuisière, mais je me débrouille bien. Et après, j'ai eu aussi un atelier à mon compte où j'ai fait de la construction de décors pendant quelques années. Donc j'ai beaucoup d'intérêt pour l'outillage. Voilà, une période dans ma vie, chaque fois que j'avais un peu d'argent, je m'achetais une machine-outil. Donc voilà, maintenant c'est moins le cas, mais c'est vrai que ça a compté. Et je pense qu'il y a aussi un des textes qui emporte les traces là, avec le chantier.
Oui, qu'on entendra tout à l'heure. Bricolage et écriture, c'est un parallèle qu'on peut faire facilement, selon vous ?
Je pense qu'il y a des parallèles, ouais, il y a des similitudes dans le sens où la matière ne se laisse pas faire, et les mots non plus, donc... Il y a toute une approche dans ce qu'on peut imaginer, projeter sur la forme qu'on veut donner. Et après, les difficultés en fait, concrètes qu'on rencontre quand on s'attaque à la matière, ça, je pense qu'on est vraiment dans la même dynamique.
Et de quel outil est-ce qu'on dispose quand on est écrivain ? S'il fallait poursuivre ce parallèle, Antoinette Richner, quand on s'attaque aux mots, enfin, quand on s'attaque aux images, quand on s'attaque à une narration, une forme de mise en scène verbale ?
Je pense qu'il y a peut-être le côté creusé. En fait, on a souvent un texte qui est peut-être avec, en tout cas pour moi, un foisonnement trop important. Donc pour moi, souvent, le travail, c'est d'enlever et de gratter beaucoup l'excédent.
Et parmi vos lectures de prédilection, qui ont peut-être là aussi marqué votre enfance, il y a des auteurs phares, des influences majeures dans votre parcours ?
Alors, pour peut-être les plus récents, c'est vrai qu'il y a énormément d'auteurs. Dire que mon écriture ressemble à ses œuvres, bon, ce serait prétentieux, mais après, en tout cas, c'est des auteurs qui ont contribué à me faire prendre conscience que la littérature, les mots ont une place indispensable dans la vie. Donc,
en l'occurrence,
je pense qu'il y en a un qui me fait toujours beaucoup, qui me passionne vraiment, c'est Thomas Bernhardt, avec, je dirais, ces espèces d'obsessions, ces circuits en spirale où on revient toujours sur les mêmes questions. Son art aussi de l'exagération, qui me fait complètement délirer, quoi. Donc ça,
et qui vous manque ou que vous pensez avoir développé dans l'écriture ? Parce que souvent, il arrive qu'on s'attache à des auteurs qui ne sont pas forcément dans le même registre que celui qu'on pratique soi-même.
Bon, je ne sais pas si on peut dire que ça m'a inspiré, mais c'est souvent après coup qu'en lisant, je me dis « Ah ben tiens, voilà ce que dans l'idéal j'aurais pu aller chercher si j'étais allée encore plus loin, si j'avais radicalisé, voilà où je pourrais, voilà où j'ai tenté d'aller. » Et souvent, je dirais aussi, ça me rassure ou ça me conforte. Parfois, j'ai encore la peur peut-être justement d'aller trop loin. Et en lisant, je me dis, ben tiens, non, au contraire, il faut y aller. Si je prends un exemple, j'ai écrit une pièce de théâtre qui a été montée cette année, qui s'appelait « L'enfant mode d'emploi », et qui parlait en fait de la maternité-paternité dans nos sociétés, qui était un regard assez humoristique, mais assez noir. Les personnages étaient assez monstrueux aussi, donc là j'ai eu quelques réactions, heureusement rares, mais j'en ai eu des réactions un peu outrées en me disant « Mais comment tu peux écrire ça sur les enfants ? Est-ce que c'est ton regard ? Est-ce que c'est ça ?» Enfin, des parallèles aussi avec ma vie personnelle. Et après coup, enfin, sur le moment, bon, ça m'a un peu perturbée parce que je me disais « Non, c'est pas moi, voilà ». Et après coup, j'ai lu par exemple un livre de Jean-Marie Hordet, qui est le directeur de la Bastille à Paris, et qui a écrit en fait un peu sur son travail de directeur de théâtre au Solitaire intempestif. Et il y a tout un passage où il parle de cette confusion que peut faire le public entre peut-être vie de l'auteur et une réalité qu'il essaie de dénoncer.
Et en lisant
le malentendu, effectivement. Et après, je me suis dit, bon, ben voilà, je peux pas porter sur moi cette confusion que fait le public. Moi, je peux essayer de dénoncer. Et après, ça m'appartient plus de savoir dans quelle mesure on m'associe à ça.
Vous parliez de cette œuvre de Thomas Bernhardt, Antoinette Richner. Dans quelle mesure la lecture est une formation à l'écriture ? Vous avez suivi 3 années à l'Institut littéraire suisse de Bienne. Qu'est-ce qui distingue ces deux moments dans votre parcours ? Deux choses qui sont séparées l'une de l'autre ?
Non, la lecture, c'est une part de l'écriture, je pense vraiment, parce que évidemment, on compare notre propre travail à ce qu'on lit, on s'y projette. Bon, là, j'ai pris l'exemple de Thomas Bernhardt. Peut-être qu'en lisant ses structures obsessionnelles, je peux m'y reconnaître, je peux reconnaître les miennes, et je dédramatise peut-être parce que j'en ris. Si je prends des auteurs vraiment extrêmes comme Elfriede Jelinek ou Marianne Diaye que je suis en train de découvrir, là... On fait toujours la preuve que le réel n'est pas vraiment... on ne peut pas vraiment le définir, on ne peut pas le saisir... Et donc c'est presque dans cette impossibilité que je me sens confirmée dans le fait qu'il faut écrire, tout en sachant que je ne pourrai jamais toucher vraiment ce que je veux toucher, mais que c'est un mouvement qui est toujours en route et que je fais partie d'une famille. Enfin, en tout cas, je souhaiterais faire partie d'une famille et m'inscrire dans des recherches qui me font du bien quand je les lis. En fait, je trouve que ça aide à vivre de lire. Donc moi, je souhaiterais que ce que j'écrive puisse aider quelqu'un d'autre, ou en tout cas rencontrer la sensibilité de quelqu'un d'autre.
Et dans cette démarche, une certaine exagération est nécessaire, en tout cas vous paraît propice pour approcher en tout cas le réel, la réalité ?
C'est une des formes possibles. Après, moi je pense que j'ai beaucoup de styles et d'approches différentes pour l'instant. C'est vrai que c'était le cas dans cette pièce « L'enfant mode d'emploi » parce qu'il y avait des listes, il y avait des accumulations, puis il y avait des exagérations vraiment sur le caractère monstrueux, mais on pouvait toujours, je pense, trouver un miroir déformant notre monde, mais Après, il y a d'autres possibilités.
Et ici, alors, dans ces trois textes que vous avez écrits pour, spécialement pour la radio, pour Entre les lignes, Antoinette Richner, mise en onde par Jean-Michel Meyer, quel ton commun, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un ton commun que vous avez souhaité inculquer à ces textes, et quel serait-il ?
Non, je crois pas qu'il y a de ton commun. Je m'y suis vraiment lancée la tête la première, dans le plaisir aussi de savoir qu'il y aurait une issue concrète, en fait. Je pense que pour moi, c'est actuellement, c'est quelque chose d'important de savoir que je vais pouvoir inscrire ça dans un... que ce soit une activité professionnelle, que ce soit rémunéré, mais que surtout que je sais que des gens vont l'entendre bientôt, et ça me fait démarrer.
Comme point de départ, en tout cas, comme une forme de tremplin. Vous êtes âgé de 30 ans,
oui.
Exactement. Ici, ce passage par la radio a changé votre façon d'écrire. Ça posait des conditions formelles différentes. Vous avez écrit différemment.
Non, mais c'est simplement que je me suis lancée peut-être plus vite et en posant moins d'obstacles, moins de barrières, parce que je savais que je devais le rendre. J'avais quelque chose à produire.
Dans un délai bien précis.
Voilà, hein. Donc c'est tout simplement ça qui peut-être... m'enlève un peu des censures que j'aurais tendance à faire si j'écris seulement pour moi. Ces trois textes, je pense qu'ils sont de nature assez différente, stylistiquement aussi. Il y en a un qui a eu un point de départ vraiment tout bête, parce que c'est pas sur un chantier, puis c'était parce que j'étais en situation d'écriture où j'entendais des bruits de chantier, puis ça a déclenché. Donc,
votre fois, imaginaire, c'est... oui, ce sera le deuxième texte qu'on entendra tout à l'heure. Celui qu'on va découvrir maintenant est intitulé « Nos enfants ». On l'évoquait déjà en début d'émission. Des adolescentes apparaissent sur une scène, elles dansent sous le regard émerveillé, parfois aveuglé des parents. Ils sont très fiers de leur progéniture. Alors cette fierté parentale, elle va être un peu bousculée par l'irruption d'un personnage qui colle pas forcément avec l'idéal que se font ses parents, Antoinette Richner.
Non, c'est vrai que déjà dans la situation de base, ce que je voulais peut-être mettre en avant, c'était justement ce manque d'exigence artistique, en fait, qui peut m'agacer. Parce que dans mon idéal pédagogique, je pense que si on met des enfants sur scène, c'est aussi pour leur apprendre une certaine exigence de ce que c'est que, même si on ne veut pas en faire des comédiens professionnels, je veux dire, s'ils sont jeunes, mais qu'ils soient initiés à ce que ça peut être quand même un travail de se tenir sur scène. Et là, ça se limite vraiment simplement au plaisir de voir sa descendance sous les feux de la rampe. Et voilà, c'est un peu ça que je voulais peut-être critiquer. Quant à l'apparition, je vous laisse...
laisse la découvrir. Voilà. La lecture est de Marie Druck, la mise en onde, Jean-Michel Meyer.
Nos enfants sur scène. La lumière baisse. Les fauteuils, peu à peu, coagulent. La salle est au noir. L'un après l'autre, dans les carcasses, s'allument les témoins phosphorescents de l'attente. Jamais les rideaux n'ont contenu autant de poussière. Les carcasses en veulent pour leur présence. Elles demandent apparition. C'est la fin de l'année et elles exigent qu'entrent maintenant en scène leurs enfants. Leurs enfants résultats, leurs enfants bénéfices, leurs enfants espoirs, leurs enfants achèvement. Elles veulent leurs enfants transfigurés, mais leurs enfants quand même, chacun le sien. De chaque carcasse, la production. Aujourd'hui, la splendeur de 12 adolescentes en costume tzigane, mascarade figée dans son pâté de flamenco. Les oreilles d'un bloc sont immédiatement saturées, mais qu'importe. C'est insoutenable, mais qu'importe. Sur scène ce soir, voilà nos enfants, disent tous les cœurs mous au fond des carcasses périssantes. Les adolescentes bougent des hanches pour montrer à l'assemblée de géniteurs qu'elles y sont à leur tour. Les voilà génitrices en puissance, elles éclatent comme de purulents bourgeons. On s'émeut dans la salle, on ne peut mesurer l'écart qui sépare notre nourrisson d'alors de ce produit vengeur et bien portant. Cette belle fille que notre âme, restée paysanne malgré les réformes, se réjouit de marier. Chacun la sienne, mais d'autant plus splendide qu'on peut la comparer. Un étal de jeunes hanches, de drapés rouges et verts, de peau d'un ton plus ou moins clair. Les ceintures d'or épousent les coups de hanches. Misère chorégraphique, mais qu'importe. Ce sont nos enfants ce soir sur scène. clament les tambours au fond des carcasses, qui depuis le temps des temps se saignent pour s'offrir une succession. Propriétaire déjà en deuil car distinguant, sous les hideux costumes, des attributs sexuels en irréparable expansion. Encore heureux qu'il y ait des costumes il en faut. Mais bientôt dans le monde réel, elles s'en iront ces filles, elles nous quitteront. Les carcasses pleurent, leurs vieilles larmes de carcasse, et s'accrochent à l'image, un joli bouquet de filles. Non, jamais ce numéro de flamenco ne durera suffisamment. Car il faut les égrener les années, les comparer les enfants. Ma réussit à moi, ses jambes un peu moins fines que celles de la voisine qui quand même les a un peu trop fines. Et puis de ce côté, mais c'est qu'on remarque une grosse. Si, une grosse. J'ai bien vu une grosse, mais alors grosse, grosse. Comment ose-t-elle monter sur scène? Mettre un costume. D'ailleurs, comment a-t-on bien pu lui trouver un costume? Comment peut-on la placer là, parmi les autres? Une erreur. Un faire-valoir, peut-être. Après tout, il est bon pour chacun de songer... Ma fille, au moins, est mieux proportionnée. Bien sûr, elle a ses défauts, mais elle est mieux proportionnée, mieux réussie en sorte. Et de la grosse, je ne suis pas responsable. L'harmonie de l'image en prend un coup. Mais avec la grosse, c'est la nature tout entière qui est montée sur scène. L'impitoyable. Les carcasses en voulaient pour leur présence, elles en ont. Avec la grosse, elles en reçoivent du tragique et du grotesque. La sale nature se permet décidément tout et n'importe quoi. Bien sûr, ma fille n'est pas parfaite. Et en venant ce soir, je lui en voulais. Oh, comme je lui en voulais. Mais à présent que j'ai la grosse sous les yeux, tout est réparé. Oui, tout. Oui, ma chérie, danse, danse. Nous nous chargeons d'oublier la grosse, de la supprimer. De traiter le défaut, car il faut se l'avouer, elle gâche, oui, elle gâche ce magnifique tableau. Vois comme sa jupe sur ses hanches forme des plis qui n'ont rien à voir, mais alors là, rien à voir avec ses gracieux plis qui, autour des autres bassins, le tissu épouse les coups de hanche. Qu'y a-t-il de mal à ça? Nos filles s'entraînent à séduire, un point c'est tout. La honte, c'est la grosse, et la grosse ne nous regarde pas, heureusement. Alors, la lumière change. Du rouge flamenco, on passe au blanc. Tandis que les haut-parleurs graduellement se taisent. Un soulagement unanime dans la salle. On aurait pu regarder danser sa progéniture durant des heures, vraiment des heures, mais nos oreilles ont des limites. Alors, quelqu'un va au piano. Alors la grosse se met à chanter. Nom de Dieu, elle chante. La grosse chante et les autres filles ont disparu. La grosse est une sorcière qui fait s'évanouir les autres. La grosse est une merveille. La grosse ruisselle de lumière. Jamais les rideaux n'ont autant évacué de poussière. C'est qu'elle me foutrait presque les larmes aux yeux. La grosse, dans le contre-jour, a des mèches folles qui fuient. Son costume la boudine, mais la dignité l'emporte. Sa gravité. Les carcasses, une à une, s'élèvent et se souviennent. La grosse devient quelqu'un. Ça, j'aurais jamais cru. La voix dans la salle se répand. Et les carcasses s'éveillent.
Si un de vos trois textes écrits spécialement pour la radio, pour Entre les lignes, Antoinette Richner, la comédienne Marie Druck, qui lisait, qui interprétait ce regard du parent découvrant l'irruption de cette fille différente des autres qui, semble-t-il, a une autre dimension que simplement bouger son corps dans un exercice de flamenco. Vous écoutez Entre les lignes, où nous parlons de votre travail, Antoinette Richner. Une chose me frappe ici, c'est à quel point vos termes sont directs, parfois durs. La carcasse pour parler des parents, la grosse pour parler de cette fille différente, comme si vos personnages se définissaient d'abord par leur corps.
Peut-être que les termes sont durs parce que je ressens quelque chose d'insupportable dans ce côté peut-être rituel de mesure en fait, du spectacle de fin d'année où on voit ça aussi avec les cortèges à la fin de l'école primaire, ou ces moments de passage où j'ai l'impression qu'on fait le bilan. Où en est mon enfant, où est-ce que j'en suis moi, cette passation, parce que là il s'agit d'adolescentes, on le dit, qui sont arrivées un peu à maturité sexuelle, donc peut-être qu'il y a un passage aussi d'une génération à l'autre, voilà, maintenant ça se passe chez les suivants, donc moi je suis plus qu'une carcasse. Il y a un peu ce côté-là qui m'horripile un peu en même temps, donc je pense que c'est en réaction à ça.
Et c'est un moment rituel, alors on l'a tous vécu plus ou moins, qui vous a marqué vous-même cet exercice un peu imposé lors des cérémonies de fin d'année, les promotions où chacun doit y aller un peu de son numéro, Antoinette Richner ?
Mais je crois que c'est un peu général, j'ai des fois du mal avec les anniversaires ou avec les mariages ou avec les enterrements, en même temps, je sais que c'est nécessaire dans une société qu'il y ait des points forts, des moments... qu'on marque des moments symboliques, et en même temps je trouve qu'il s'y passe tout un réseau de choses très fortes émotionnellement qui m'impressionnent, qui me mettent un peu en difficulté, parce qu'en même temps je me dis bon, les choses importantes se passent à d'autres moments, elles sont pas contrôlables, elles sont pas forcément ce jour-là, elles vont avoir lieu de manière complètement, sur des moments complètement anecdotiques, et c'est un flux qu'on peut pas vraiment
contrôler.
Voilà, enfin, il y a quelque chose d'artificiel pour moi dans ce phénomène social de mettre comme ça des bornes en fait, ou le faisceau sur un moment, un jour important, une fête importante.
Parce qu'être sur scène, vous le disiez avant qu'on entende ce texte, Antoinette Richner, être sur scène, ça répond à un certain nombre de règles. C'est très exigeant, une scène. On peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui change justement sur scène, vous qui écrivez aussi pour la scène ?
En tout cas, dans le cadre de ce texte, là, on n'est pas vraiment dans un spectacle au sens où je l'entends, où il y a un travail ou une recherche scénique, où on considère que la présence scénique, c'est un art. Là, on est plus dans un côté folklorique, culturel, où on va faire un peu un étal de nos enfants, voilà où ils en sont aujourd'hui. Alors que peut-être les entraîner dans une démarche plus artistique, ce serait pas forcément les faire danser ou les habiller avec des costumes. Ce serait peut-être quelque chose de plus sobre. Après, je ne suis pas pédagogue de théâtre, mais...
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est justement mal à l'aise avec la scène et une occupation de la scène qui soit simplement naturelle, physique, tout simplement, qu'être sur scène, par définition... Ça a quelque chose de contraignant, en tout cas dans notre, je dis pas notre civilisation, mais en tout cas dans notre pays, dans notre culture, par rapport à des populations plus au sud, où enfin on investira une scène sans trop de complexe. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine gêne, non ?
Un ensemble de règles, dans le sens où un public attend peut-être une transformation quand même. Donc là, c'est un public qui va pardonner, qui n'ait pas cette transformation, peut-être parce que justement c'est leurs enfants. Mais en même temps, on va ressentir qu'il y a quelque chose d'un peu pitoyable parce que artistiquement, c'est mauvais. Enfin, il se passe rien. Donc, est-ce qu'ils sont transformés ? Non, pas vraiment. On peut les reconnaître. On sait que c'est peut-être ça se passe dans un village. C'est la fille du voisin. Voilà. Donc, c'est ça aussi monter sur scène. C'est qu'est-ce qu'on si on monte sur scène, qu'est-ce qu'on a comme transformation à faire voir ?
En même temps, et poursuivant sur cette idée d'être en scène, sur scène, Antoinette Richner. Vous n'avez pas le sentiment qu'une génération, la vôtre, se considère sans arrêt et désormais toujours plus en scène dans la vie de tous les jours, et qu'il s'agit toujours plus de se mettre en scène, alors par les moyens technologiques qui le permettent, mais qu'il n'y a plus de différence entre les moments à l'écart de la scène et les moments où vraiment on est figurant. et qu'il y a cette confusion qui opère.
Si, il s'agit de se publier, en tout cas en permanence. Ça, je pense qu'on y est de plus en plus. Après, la scène, elle a quand même cette particularité physique, effectivement, du corps, où on monte dessus, si on tremble, ça se voit. Si on n'a pas de voix, ça s'entend. Mmh. Mais pour la publication perpétuelle, aussi virtuelle, ça c'est aussi quelque chose qui me travaille pas mal.
Et vous luttez là contre ou ça vous gêne pas?
Bah, je pense que je suis tellement à l'intérieur de ça que je me rends plus. Enfin, est-ce que j'ai une distance? Je sais pas. J'ai j'ai mon profil Facebook, j'ai mes amis qui m'envoient.
C'est ça. Vous l'avez intégré de façon totalement naturelle, enfin sans gêne et de façon très simple.
Bon, je me pose la question de la critique, en fait. Qu'est-ce qui permet de distinguer, quand même, effectivement, dans un champ où tout est publié, et tout se publie par soi-même, quelles sont les instances qui peuvent encore mettre le doigt sur telle et telle œuvre, ou tel et tel travaux, ou telle et telle démarche, pour dire, voilà, ça mérite un regard plus que l'œuvre qui est à côté. Mais je pense qu'il y a quand même, en même temps, en parallèle à ce multi-publiage, il y a quand même... Des sélections qui sont très dures.
Oui, qui persistent, qui demeurent. Mm-hmm. Donc pour la jeune auteure que vous êtes, ça n'est pas forcément une complication que d'avoir ce réseau dans lequel chacun finalement peut y aller de sa patte, chacun il peut y aller de son autorité, de son jugement sur des textes.
Disons, concrètement, pour moi c'est très différent. Si je décidais d'ouvrir un site où je mettais mes textes en vrac... pour moi, il y aurait, bien sûr, ce serait une possibilité, mais il n'y aurait peut-être pas justement de critique ou de valorisation. Alors que quand c'est un autre média, bah, par exemple, aujourd'hui, je sais que quelqu'un a choisi de me demander à moi si je pouvais le produire, le texte, et quelqu'un s'y est intéressé. Là, Jean-Michel Meyer l'a mis en onde, donc là, je sais qu'il y a déjà plusieurs filtres. Finalement, le noyau qui sera proposé aux auditeurs...
Il y a déjà une sélection, un affinage d'un tout autre ordre ici qui se met en place.
Il y a quelque chose de moins banal pour moi, en tout cas. Mmh. Voilà.
Et vous êtes contente du résultat? Vous n'aviez pas encore entendu ces textes, vous le découvrez aujourd'hui?
Ben, c'est toujours très étrange, en fait, d'entendre, que ce soit au théâtre ou à la radio, un texte qu'on a écrit, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que ça ne vient plus de moi, mais que ça fait tout un tour et que ça redevient étranger quand je l'entends. Donc ça, c'est assez fascinant. Ce que j'ai pu entendre, en tout cas là, c'est certaines pointes d'humour que j'avais mis et que j'ai retrouvées. Donc là, il y avait...
Oui, il ouais. y a ouais. de quoi sourire, en tout cas, réagir à la lecture de la comédienne et du registre qui est adopté ici. On va passer dans un registre différent avec le deuxième texte que vous avez écrit spécialement pour la radio, Antoinette Richner. Vous écoutez Entre les lignes. Ici, on est dans l'univers du chantier, des travaux avec les machines, le dur labeur sur un chantier, un ouvrier qui observe le chantier où il a collaboré depuis sa chambre d'hôpital. On ne sait pas si c'est vraiment le chantier où il a travaillé, mais enfin, il est lui accidenté depuis, et depuis sa fenêtre, il ne rêve que d'une seule chose, c'est de pouvoir y retourner. On se plonge dans ce texte, si vous le voulez bien. Antoinette Richner, Marie Druck, est toujours la comédienne ici, et la réalisation signée toujours Jean-Michel Meyer.
Sous la fenêtre ouverte. C'est amorce, lorsque le bois est mordu, puis un départ dans les aigus à la fin de la coupe. Une circulaire. Songe l'homme. Ou encore une meuleuse, pourquoi pas. Une poutrelle entamée, le disque avale. Il s'enfonce dans l'acier. Mais les étincelles, l'homme ne les voit pas. La coupe s'arrête, un choc. Ça résonne charnu, rien de métallique, non. Du sapin à tous les coups, une belle section, du sérieux. De la poutre, quoi. Ou un bout de panneau. Le coffrage est en place. Entre les angles, l'air attend la coulée. Le béton va combler jusqu'au moindre interstice, mais auparavant, les dernières mesures à ne pas omettre. Alors oui, peut-être bien que ces coups... l'homme les entend se répéter, sont la frappe des massettes sur les panneaux de coffrage, un coup par-ci, un coup par-là. Et encore une intervention de la scie circulaire, parce que l'extrémité est là, le bout. Ici, la construction mérite encore d'être bouchée avec un étroit débris. Et lorsqu'on tient la pièce, il s'agit de la poser. Un coup de massette par-ci, un coup de massette par-là, pour ajuster. L'homme écoute les coups. Il en reconnaît les réponses. Rien d'autre en ce monde, rien d'autre que du trois plis frappé à la massette ne peut produire ce genre de résonance, sourde, élastique. Un appel régulier. Fenêtre ouverte, l'homme en reçoit sa part. Et des chutes et des chocs, de l'envol des éclats de poutre et des coups portés à la massette, rien ne lui échappe. Tout lui parvient par syllabes. Retour au calme. Il sait alors les massettes raccrochées aux ceintures, mais les ouvriers, l'homme ne les voit pas. On siffle. Le chantier n'est pas loin. Le chantier est sous les fenêtres. L'homme entend siffler. Puis les ouvriers appellent. Les ouvriers appellent, mais vient déjà autre chose. Aucun doute. C'est le discret ébranlement de la toute-puissante. L'électrique, la dame du vent, pleine de ciel. Aux commandes, le grutier domine. Toutes les machines, il les domine. La circulaire, ses dents étincelantes autour du disque, il la domine. Le disque de chaque meuleuse, qui sur le chantier tourne et dévore son lot de particules, il le domine. Les ouvriers, leur disque de protection aux oreilles et le disque d'eau sale qui clapote dans un tonneau. La danse des figurines, le sol vivant tout entier, il les domine. Et tutoie au passage le disque blanc du soleil. Mais soudain, percussion de tube. Ça, se dit l'homme, du travail d'échafaudage. Des planchers ajoutés plus haut, toujours plus haut. À moins que démontage d'une structure. On tient le tube. Dans la paume, il est froid. Se souvient l'homme qui n'a jamais eu pour habitude de porter des gants. Froid au matin. Très chaud sous le soleil à midi. On tient le tube. On desserre le collier. On lâche le tube. Le tube s'écrase. Rejoint la pile. C'est le vide à l'intérieur du cylindre. Jamais le plein ne donnera pareil. C'est l'air qui vibre. C'est le souffle qui passe. C'est le vide et le choc responsable d'une musique. Mais l'avait-il déjà remarqué? Sous la fenêtre ouverte, non loin du chantier, non loin. Non, le chantier ne doit pas être loin puisqu'on entend jusqu'au sifflement des ouvriers. Sous la fenêtre ouverte, l'homme silencieusement se souvient. Ses mains se rappellent le contact du tube. Elles restent à leur place, déposées de chaque côté, sur le drap. Impact. Du bois qui résonne encore. Après, on raccroche sa massette à la taille. Être au travail. Porter une massette, savoir ce qu'il convient de faire, se préparer à frapper, frapper. Alors qu'au fond du chantier, par les trous de la palissade, les yeux des flâneurs guettent, les yeux de ceux qui n'ont rien à frapper, rien de mieux à faire que de regarder. Mais celui qui porte une massette à la ceinture n'en est pas, non. Celui qui porte une massette à la ceinture et de ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent sont de ceux qui travaillent, un point c'est juste. Quand est-ce que je pourrais recommencer à travailler? Croit demander l'homme allongé. Mais ça doit le gêner, ce bruit, les machines, dit l'infirmière à l'autre. Et sans perdre de temps, elle s'avance. ferme le cadran. Double vitrage.
Est-ce que je pourrais recommencer à travailler ? Se demande votre personnage ici, Antoinette Richner. C'est le deuxième des trois textes que vous nous avez apportés dans Entre les lignes sur Espace 2, réalisé, mis en onde par Jean-Michel Meyer, la comédienne Marie Druck, à l'instant. Ici, un registre alors très ancré dans un univers bien précis, un regard qui n'est plus le regard forcément un peu légèrement cynique, enfin ironique, décalé que vous nous proposiez tout à l'heure dans le premier texte. Ici, on est vraiment au cœur du monde du travail. Vous nous disiez que ce texte vous était venu au moment où vous entendiez les bruits d'un chantier et tout de suite, cet amour sonore vous incitait à aller plus loin. Dans quel but ? Pour montrer quoi, en somme, Antoinette Richner ?
C'est vrai qu'au moment où je l'ai écrit, j'étais moi-même dans une situation où je participais sans participer, parce que j'entendais tous ces bruits qui entraient un peu dans ma sphère intime, mais moi, je n'étais pas sur place, je n'étais pas sur le chantier. Bon, ça a été une surprise pour moi, parce qu'au fur et à mesure de l'écriture, tout à coup, il y a cette question du travail qui arrivait très fort, donc je ne l'ai pas refusé, je l'ai pris. Peut-être ça reflète une préoccupation aussi que j'ai de... Toujours de me situer en tant qu'artiste, l'artiste dans la société, qui a des rythmes de travail peut-être moins définis, moins fermes.
Mais qui reste un artisan.
Qui travaille, quoi, ouais, qui travaille. Mais c'est toujours difficile à expliquer, peut-être, ou c'est toujours... C'est vrai que l'exemple du chantier, c'est, je pense, des conditions et des horaires qui sont très, très cadrés. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus clair d'expliquer que c'est du travail. Bon, là, dans la situation, c'est encore différent parce qu'il y a justement cet ouvrier qui est un peu mis de côté, finalement, contre sa volonté, qui se demande qu'est-ce que je suis si je ne travaille plus.
Le travail nous définit.
Oui, je pense que ça, c'est une de mes grandes interrogations. Le travail, qu'est-ce qui nous définit plus exactement ?
Non seulement le corps, on l'a bien compris tout à l'heure, mais le travail aussi. Et le travail, c'est quelque chose qui nous travaille. Aussi.
On est quand même, je pense, dans une communauté où on se définit comme ça, puisque c'est la première chose qu'on vous demande, quand même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis écrivain, c'est quand même quelque chose de difficile à dire, que je m'aventure pas facilement à le dire. Donc, peut-être ça transparaît un peu ça dans le... Voilà, est-ce que je suis ouvrier, je suis plus ouvrier, je suis quoi ?
Pourtant, l'écrivain ne gagne pas de loin sa vie uniquement grâce à son écriture. Hein. La plupart vous le diront, nous le disent. Ils sont des travailleurs, mais qui ne sont pas rétribués forcément à la hauteur de leur effort. Et cet aspect-là, ça vous paraît une absurdité, Antoinette Richner ? Vous l'acceptez ?
Mais ça ne se situe pas qu'au niveau financier, j'ai l'impression. C'est plutôt dans l'acceptation de... Qu'il soit rétribué ou pas, finalement, ce travail, il existe, il est matériel. C'est des heures qu'on passe à écrire, à réécrire. Donc, c'est plutôt comment il est considéré, en fait. Mais je pense que n'importe quel artiste, finalement, va peut-être se trouver confronté au même problème. Hein. Très certainement un plasticien, un musicien, un comédien, il aura aussi... Bon. Avec la solitude, peut-être, qu'on attribue plus volontiers aux écrivains, les choses sont encore plus floues, j'ai l'impression.
Oui, c'est moins quantifiable de façon, j'allais dire, matérielle et empirique. Puisqu'on parle du matériel et de l'empirique, et pour revenir au texte qu'on vient d'entendre, il y a tout un univers des matériaux, précisément, des outils hein, que vous détaillez dans cette scène de chantier. Et là, c'est une chance, c'est un défi pour l'écriture, j'imagine, de se plonger dans un univers bien précis qui répond à des règles techniques bien précises. Vous aimez, vous inspirez de ces portions très, très délimitées de la réalité, Antoinette Richner ?
Oui, j'aime beaucoup. Souvent, je réagis à un petit détail où je réagis effectivement à un objet Bon là, je ne suis pas non plus une spécialiste, je suis bien loin d'être une spécialiste de la construction et du bâtiment.
Vous bricolez quand même, vous nous le disiez en début d'émission.
C'est vrai, j'aime beaucoup, surtout le métal, j'aime beaucoup l'odeur quand on meule, quand on soude.
Vous aimez l'odeur du métal meulé.
J'aime beaucoup ça, ouais. En fait, j'aime aussi la sensation de puissance que ça donne de travailler avec des outils qui peuvent quand même découper de l'acier, je trouve que c'est...
Et des hommes aussi,
extraordinaire.
Accessoirement.
J'aime bien les milieux masculins aussi, c'est vrai que j'ai eu que des bonnes expériences, donc... relationnellement, je trouve que c'est aussi quelque chose d'assez franc, d'assez direct. Voilà,
c'est tranchant, tranché.
C'est tranchant.
Et le féminin, alors c'est du côté quoi, de la lime plutôt, de ce qui, hein, ce qui arrondit, c'est ça, hein. On va pas entrer dans les grandes distinctions, les caricatures.
Non, je crois pas.
Je vous posais cette question parce que je pense à la petite collection d'instants fossiles qui était votre travail de fin d'études à la Haute École des Arts de Berne, l'Institut littéraire suisse de Bienne. Vous avez passé 3 ans et vous avez proposé un recueil de textes courts qui sont des saisies d'instants brefs. Ça va d'ailleurs donner lieu, je crois savoir, à une publication tout prochainement. Alors peut-être nous dire dans quelle optique vous avez réalisé ce travail, collectionner des instants fossiles.
Bon, bah, l'instant fossile, il se définit un peu dans cet instant dont je pense qu'on a tous notre propre collection d'instants fossiles, nos instants dont on se souvient plus particulièrement, soit qui s'est passé, on a le sentiment qu'il s'est passé dans un laps de temps très court, une chose très importante, ou qu'on aurait souhaité réagir différemment, ou faire ceci, ou faire cela, ou que. Voilà, donc c'est un peu comme un faisceau narratif qui se promène comme ça dans plein d'existences différentes et qui s'arrête. Sur certaines vies, à un certain moment fatidique. Parfois, c'est vraiment un point de départ qui se situe dans un tout petit grain, un tout petit quelque chose. Et c'est comme si, en fait, le processus, ce serait d'agrandir un peu, de faire une photo, de l'agrandir. Et
une extension, oui.
Détailler, d'aller vraiment dans le...
Dans le micro.
Voilà, dans le micro.
Mm-hmm. Et ça donnera lieu donc à une publication en automne, c'est bien cela ?
Exactement.
Du côté alors des éditions de...
Aux éditions de l'EB, en septembre.
En septembre. Ça, ouais. Bah, tant mieux, donc comme quoi les ponts sont possibles entre la recherche, la formation, hein, votre formation d'écrivaine et la vie après, une fois qu'on a le titre en main. Si vous le voulez bien, Antoinette Richner, d'entre les lignes que vous écoutez et où nous découvrons... vos 3 textes spécialement écrits pour la radio, eh bien, on va passer à ce troisième moment, ce troisième pan du triptyque du jour. Là aussi, là encore, dans un registre de nouveau différent, c'est un dialogue, contrairement aux 2 autres qui étaient vraiment soit dans le monologue ou la description, un dialogue entre un jeune homme et une jeune femme. Ils sont sur les berges d'une rivière, et ils ont une discussion, et chacun a un point de vue bien précis, bien différent sur... La naissance d'Ève, le texte s'intitule « Équation à une inconnue ». Là encore, je vous propose qu'on découvre votre texte et puis on revient juste après.
Équation à une inconnue. Assise au bord du fleuve, m'arrive un masculin, grand brun blond. En muscles, en nage et en crinière. Si Ève égale Adam moins X, il me dit. N'est-ce pas Ève qui fut soustraite à la matière d'Adam ? J'interviens. Par la cuisse, je lui dis. Il réfléchit. Si X égale Adam moins Ève, il me dit. Et répète. Si X égale Adam moins Ève. X égale, X égale, je réfléchis. Est-ce qu'Ève égale Ève immédiatement au sortir d'Adam ? Je lui dis. Par la cuisse ? Je poursuis. Ou est-ce qu'Ève commence par être morceau d'Adam ? Une fraction ? Je précise. Tandis qu'il réfléchit. Si Adam moins Ève égale aussitôt Ève, par la bouche je poursuis, c'est qu'Ève plus Ève égale Adam, il me coupe. Je l'observe. Grand brun blond, en muscles, en nage et en crinière. Jamais, je lui dis. Jamais Adam n'a valu le double d'Ève. Pas question, je lui dis. Nous regardons couler le fleuve. Reprenons, il me dit. Reprenons. Si Adam égale X moins Ève, X égale... Alors Adam, avant l'arrivée d'Ève, n'était pas encore Adam? Il était autre chose? Je lui dis. Super Adam? Je lui dis. Nous regardons le fleuve. Peut-être, il me répond, peut-être, mais si X vient après, s'il vient à la suite d'Adam et d'Ève, alors X égale... Je sais, je lui dis. X devient la somme, Adam plus Ève égale X. X égale Adam plus Ève, le résultat, je lui dis. La somme, il répète. Les chromosomes, la descendance, les enfants, vous n'allez pas commencer, je lui réponds. Il réfléchit. Grand brun blond, en muscles, en nage et en crinière, il réfléchit, le masculin. Ève isolée, je dis pour voir. Ève isolée est-elle égale à Ève ou égale à X? Il réfléchit, mon masculin. Dans certains cas, il poursuit. Prenez par exemple X égale Adam plus Ève moins Adam. Adam soustrait dans un deuxième temps, je lui dis. La famille monoparentale avant l'heure, à l'origine? Je lui dis. Le manque d'Adam. Laissons couler le fleuve, il me répond. Laissons-le couler. Vous avez raison. De toute façon, je lui dis, de toute façon, Ève n'est pas sortie de la cuisse, mais de la côte, n'est-ce pas? Une petite confusion. Vous êtes tout excusé. Mon masculin me pardonne. La mythologie, je dis. Absolument. Il réfléchit. Nous regardons couler. Bien, il me dit. Ce fut bien sympathique. Absolument sympathique, il me dit. Ce très cher, très estimé masculin. Sur ce, il me dit. Sur ce, absolument, je renchéris. Absolument. Sur ce, nous nous taisons pour écouter couler le restant des heures, le temps donné à une inconnue.
Équation à une inconnue, le troisième des textes que vous nous avez apporté aujourd'hui d'Entre les lignes. Antoinette Richner, écrit spécialement pour la radio, interprété ici toujours par Marie Druck, et mise en onde, là encore, par Jean-Michel Meynière. Dialogue impromptu, en même temps assez philosophique, comique, autour de cette équation du départ. La poule, l'œuf, c'est une problématique qui vous intéresse?
Mais disons que j'ai des connaissances mathématiques assez piètres, donc je ne vais pas essayer de l'expliquer sous cet angle.
Je ne vous demanderai pas de...
Mais symboliquement, c'est vrai qu'il y a Ève, il y a Adam, il y a le X et il y a le égal. Donc évidemment, il y a un peu l'égalité, on l'a entendu. Il y a aussi, effectivement, la poule et l'œuf. Enfin, comment un morceau d'Adam a pu devenir tout d'un coup une personne à part entière qui avait la même valeur que celui dont elle était issue. Il y a cette question-là. Et puis, peut-être l'équation. J'ai l'impression qu'on est dans la vie, on est dans une équation où on a toujours un peu ces mêmes donnes. La famille, la profession, les amours, les amitiés, le temps. Comment on configure, qu'est-ce qu'on met, de quel côté de l'égal. Et puis finalement, l'équation revient toujours. Enfin, les valeurs sont toujours les mêmes. Comment on compose nos... nos éléments.
Oui, chacun a une équation à trouver, à résoudre et à installer, en tout cas.
Puis en tout cas, toujours ce reste ou ce X qui reste inconnu, j'ai l'impression, dans le couple ou même aussi dans la famille. En fait, cette espèce d'harmonie peut-être qu'on essaie de chercher et qui nous échappe toujours un peu.
Et l'équation avec ces inconnus, l'avenir en est une sans doute. Votre avenir, Antoinette Richner, se profile, je crois, assez bien, en tout cas pour l'avenir immédiat. Le futur, c'est cet automne où vous allez publier, je l'ai dit, votre recueil de nouvelles, votre recueil, premier recueil de textes courts aux éditions de l'Elbe. Vous allez participer aussi, je crois savoir, à la création d'une pièce de théâtre. Vous avez obtenu une bourse à l'écriture pour une pièce dans le programme Texte en scène, c'est bien cela ?
Oui, Texte en scène, c'est un programme qui est organisé par la SSA, la Société Suisse des Auteurs, le Pourcent Culturel Micro et Pro Helvetia, qui se sont associés pour attribuer des bourses. Donc il y a quatre lauréats. Là, c'est Dominique Zingler, Jérôme Richer, Wolfram Hull et moi. Mm-hmm. Donc voilà, je suis très contente parce que ça va pouvoir me permettre de dégager du temps pour écrire. Il y a un accompagnement aussi qui est prévu. Donc c'est un beau... C'est un
quelque
beau
chose sujet. De sérieux et de stimulant en même temps.
Tout à fait, oui.
Et à côté de ça encore, troisième point de perspective comme ça pour vous, une résidence au Théâtre du Grütli, je crois savoir là aussi.
Oui, en fait, c'est le Théâtre du Grütli à Genève qui met en place ce qui s'appelle une zone d'écriture. Donc c'est un concept tout à fait intéressant pour peut-être poser franchement la question de la place corporelle ou la place matérielle ou la place de l'auteur vraiment au sein du théâtre. Disons, le statut de l'auteur est toujours un petit peu bancal, on ne sait pas trop. Bon, parfois il est dans une production de théâtre, mais souvent son texte est pris, alors quelle profession il a, comment il est intégré. Il y a aussi beaucoup de courants théâtrales de mise en scène qui n'utilisent plus en fait des textes écrits pour le théâtre destinés à la scène, mais qui font des adaptations de toute autre sorte de source en fait de texte. Et c'est vrai que c'est un peu délicat, ça devient délicat de se positionner. Et là, je trouve qu'ils ont vraiment
osé
poser la question de manière concrète, en invitant donc plusieurs auteurs qui seront là pendant plusieurs mois. Pour participer à la vie du théâtre, pour peut-être essayer de créer aussi des liens avec les metteurs en scène qui sont invités pour la saison, pour partager des discussions et créer des petites formes aussi, des lectures. On peut dire animer, habiter le lieu.
Mais tout ça me paraît fort réjouissant. En tout cas, grand merci d'être venu nous parler aujourd'hui d'entre les lignes de cette expérience radiophonique. Il y en a d'autres théâtrales romanesques qui vous attendent. Antoinette Richner, vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
Les lignes, l'émission a un site, il suffit de taper pour cela rsr.ch et vous aurez tous les compléments bibliographiques utiles. Demain à 11h, nous dresserons le portrait des éditions Zoé à Carouche en compagnie de leur directrice Marlise Pietri. Elle répondra à l'invitation de Christian Tchoka. L'émission du jour doit tout ou presque à Jean-Michel Meyer, Marie Druck, Janaïne Corbeau et Bastien Meucli. Tout à l'heure, après les informations, vous avez rendez-vous avec Dardard, votre magazine d'actualité culturelle. Pour l'heure, vous écoutez Espace 2. Il est midi.